Merci Alexandra Duboucheron, bonne journée. Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dernière émission de la saison, dernier rendez-vous avec dans un instant le duel et le retour sur quelques-uns des temps forts de ces derniers mois, ceux qui ont marqué Gilles et Natacha. Et puis le débat du week-end, où allons-nous? C'était la question qui était le fil rouge du livre « L'archipel français » de Jérôme Fourquet. Il y montrait les changements des dernières décennies, tout ce qui avait disloqué une nation unie et structurée par des référentiels communs. Où allons-nous? C'est aussi ce qu'a étudié notre invité sur un temps plus court, celui de la pandémie. Un an et demi avec des habitudes, des imaginaires, des décisions que nous avons prises comme déménager, consommer mieux, se séparer parfois. Alors notre quotidien a-t-il fait émerger une nouvelle société? On va en débattre avec elle. Elle est sociologue, politologue, prof à Sciences Po et à l'université Paris-Descartes. Elle est aussi la directrice générale de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Guénaël Gault nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Et le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour cette dernière, un duel en forme de rétrospective de l'année passée. Au bout de 4 ans, Natacha, je sais que c'est vraiment votre exercice favori, je le dis en souriant, mais vous avez toujours accepté de jouer le jeu. C'est un jeu qui est à la fois subjectif, mais qui est intéressant avec le recul pour revoir, retrouver, relire certains des grands événements de l'année. On va démarrer avec vous, Gilles. Et pour vous, Gilles, l'événement, c'était ça.
Le virus ne pardonne pas les hésitations. Ce virus ne comprend qu'un seul langage, celui de la détermination.
C'était Angela Merkel il y a quelques semaines, le 16 avril, après avoir reçu sa première dose de vaccin AstraZeneca. L'événement de l'année, pour vous, Gilles, c'est la vaccination, la campagne de vaccination.
Il y a 2 ans, quand on aurait fait le même exercice, si on avait imaginé la pandémie, c'était impensable. Il y a 1 an, quand on avait fait le même exercice, si on nous avait dit qu'il y aurait 33 millions ou un peu plus de Français qui auraient reçu leur première dose et près de 3 milliards de terriens, on aurait pensé aussi que c'était impensable, il y a 1 an. Et donc, voilà, l'événement moi que je retiens de cette année, c'est la vaccination, à la fois le prodige de la recherche, la rapidité avec laquelle on a trouvé ce vaccin sans aucune commune mesure avec toutes les recherches précédentes, le prodige de l'industrie, de la fabrication, le fait d'avoir produit malgré tout autant de doses en aussi peu de temps, et puis dans le monde quand même, dans les pays occidentaux, en Europe, le prodige logistique, même si on a été souvent critique, mais enfin, ce début d'été, en cette fin de saison pour nous, moi ce que je retiens, c'est la vaccination qui nous fait quand même regarder un peu différemment à la fois l'été et la période qui suit, même si il reste un plafond. Dont on ne sait pas à quel niveau il se situe, mais qui va être le défi de ces prochains mois. Et puis, il y a aussi les risques d'un rebond, les variants, mais quand même la vaccination.
Alors nous sommes en période dite de silence électoral. Nous n'avons pas le droit de commenter l'action du gouvernement ou les politiques, Natacha. Mais sur le même sujet, la vaccination, est-ce que vous partagez le même diagnostic et le même espoir que Gilles ?
C'est en effet un événement assez frappant. La capacité de l'humanité à se mobiliser, de la science à mettre en œuvre toutes ces richesses pour aller aussi vite. Bien sûr que c'est extrêmement frappant. Alors après, il y a des enseignements à tirer de la façon dont s'est passée cette campagne de vaccination. Il y a eu des réflexions, nous les avons menées ici, sur ce que ça a révélé du fonctionnement de l'Union européenne. Il y a eu la dimension géopolitique, c'est-à-dire la façon dont chaque pays a joué sa carte, a essayé de montrer à quel point par son propre vaccin, il allait imposer sa grandeur et sa générosité au reste du monde. On l'a vu avec la Chine qui a mené cette politique. On a vu les tentatives de la Russie pour cela. Tout ça aussi nous apprend à quel point un simple phénomène à la fois sanitaire et scientifique devient immédiatement
un rapport,
voilà, l'objet d'un rapport de force. Dernier point, il reste encore un élément essentiel, c'est la vaccination des pays les plus pauvres. Et là, pour l'instant, on est quand même très très loin du compte, même s'il y a une mobilisation des pays, notamment des pays européens, pour essayer de donner des vaccins. Là, on va voir aussi si les puissants de ce monde sont capables de se mobiliser pour éviter que nous nous retrouvions avec un nouveau variant, parce que c'est ça l'enjeu. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est une obligation de solidarité pour des raisons purement pragmatiques.
Et il fallait écouter Christophe Jaffrelot, le spécialiste de l'Inde, au micro de Fabienne Synthèse cette semaine, pour prendre la mesure justement de la violence avec laquelle ce pays qui est bientôt en train de devenir le pays le plus peuplé au monde était frappé de plein fouet et payé le plus lourd tribut au monde à cette épidémie. Mais Gilles, quand vous parliez de plafond pour la vaccination, c'est ce plafond dont vous nous avez parlé régulièrement qui est lié à ceux qui ne voudraient pas être vaccinés?
C'est ceux qui ne veulent pas du tout et qui ne le disent pas seulement, mais qui ne le font pas. On a vu au cours de ces derniers mois que ce plafond de vaccination baissait régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au début, disaient ne pas vouloir se faire vacciner. Et puis, au fur et à mesure du temps, lorsqu'ils voyaient que la vaccination se passait bien normalement, lorsqu'elle commençait à devenir une norme sociale, lorsqu'ils voyaient aussi les avantages qu'il y avait à la fois individuellement et collectivement à être vacciné, qui se faisaient vacciner. La question, c'est est-ce qu'il y a un plafond irréductible en dessous duquel on n'arrive pas à aller, et ça c'est le défi de ces prochains mois. On voit que c'est le défi auquel sont confrontés aujourd'hui un pays comme les États-Unis. Après, juste un mot sur la géopolitique, parce que oui, c'est vrai que ce grand combat contre la pandémie a été aussi un combat géopolitique dont on a cru à un moment qu'il allait se solder par une victoire éclatante de la Chine. Au final, on voit que la qualité du vaccin chinois n'est pas exactement la même que celle, notamment dans la lutte contre les variants, que celle des autres vaccins. Et on voit que dans le soutien très important que Natacha évoquait aux pays pauvres, aux pays en développement, les pays européens ont plutôt été, avec retard, mais ont plutôt été davantage là que les Chinois.
La campagne vaccinale se poursuit. Natacha, pour vous, le fait marquant de l'année, il n'y a eu aucune hésitation. C'était le 16 octobre 2020, l'attentat djihadiste de Conflans-Sainte-Honorine et la décapitation de Samuel Paty.
C'est très grave et qu'on doit venir se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence, enfin, que c'est pas normal. Je trouve qu'il faut au contraire continuer encore à apprendre, pas qu'ils gagnent, sinon eux ils vont gagner, sinon les terroristes eux ils vont gagner, ils vont dire voilà, on les a tués et eux maintenant ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, faut continuer à venir, faut pas lâcher.
Papé Biram, 12 ans, qu'on avait déjà entendu donc à l'automne dernier, qui parlait donc de son expérience et surtout de son émotion après l'assassinat de Samuel Paty, son prof d'histoire géo, qui était donc tué, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Natacha.
Oui, je pense qu'il faut se répéter tous les jours que nous vivons dans un pays où un professeur a été décapité pour avoir montré des dessins et pour avoir tout simplement fait son métier. C'est-à-dire pour avoir joué son rôle, rempli sa mission, qui était de faire réfléchir ses élèves sur la liberté, sur la caricature, sur tout simplement la possibilité qui est au cœur de nos sociétés, et en particulier de la civilisation européenne, et en particulier de la culture française, la possibilité de s'émanciper des dogmatismes et de penser par soi-même. C'est encore une fois un professeur décapité. On a tendance à oublier ce que ça signifie. Or, il y a dans cet attentat un condensé d'absolument tout ce qui est en train de fracturer, d'abîmer la société française. Parce que il y a évidemment l'assassin de Samuel Paty, un jeune Tchétchène de 18 ans, Abdullah Kanzorov, dont on peut retracer le parcours. Oui. Mais il y a derrière le rôle des réseaux sociaux, on s'en souvient. Il y a derrière la pression d'un parent d'élève au nom de de sa conception de ce qu'on a le droit de montrer ou pas aux enfants. Il y a tout cela, c'est-à-dire la place de l'école et de l'institution, la possibilité pour la nation de décider de ce qu'on va transmettre aux enfants et la lutte entre cette idée d'une nation qui se constitue à travers l'école et les conceptions individuelles qui entrent en conflit. Il y a tout ça derrière. Il y a évidemment l'intégrisme religieux et une vision totalement fermée de l'islam porté par ce père de famille, par celui qui l'a encadré et qui est un militant islamiste. Voilà, tout ça, et puis la peur, la lâcheté parfois de l'institution.
Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est le signe ou l'occasion d'un réveil, peut-être, cette année, ou est-ce que c'est justement le signe de la lâcheté et de renoncement?
Pardon, mais moi, je suis un petit peu consternée d'entendre à chaque fois, c'est vrai, la question de savoir si ça va être un réveil. Enfin, en 2015, on a des dessinateurs qui ont été massacrés pour avoir dessiné. Cabu, qui dessinait dans les émissions pour enfants voilà, qui était un grand gamin, Stinius, pareil, qui était Bernard Maris, ces gens ont été massacrés. On pensait que plus rien ne serait comme avant. Il y avait jeudi matin sur France Inter un zoom qui montrait les témoignages des survivants du Bataclan qui vont dans les lycées pour expliquer aux jeunes ce qu'ils ont vécu. Mais c'est pareil, enfin 130 morts. Donc à chaque fois on se dit, là va y avoir une prise de conscience. Ben non.
Et pourtant non.
En fait non. Et surtout, la différence dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty, c'est qu'on n'est pas face à un attentat organisé de l'extérieur, une force projetée. On est face à une mécanique qui est celle de l'intolérance, de l'intégrisme, amplifié par les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup plus compliqué, en fait, et beaucoup plus dangereux, parce que ça peut se répéter assez facilement. Des gens qui se persuadent qu'ils sont dans leur bon droit, que ce qui a été fait est scandaleux, et que la République française n'a pas à transmettre les valeurs qui sont les siennes, parce que c'est ça l'enjeu.
Le duel continue sur France Inter.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Deuxième temps du débat, la personnalité de l'année. La personnalité de l'année, pour vous, Gilles, c'est un commander-in-chief, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, le nouveau président américain, Joe Biden.
My distinguished guest, my fellow Americans.
Chers invités, mes chers compatriotes.
This is America's day.
Voilà la journée de l'Amérique. C'est la journée de la démocratie.
History and hope.
C'est un jour historique, un jour d'espérance, de renouveau. Un jour symbolique pour l'histoire. L'Amérique a encore une fois été testée et encore une fois l'Amérique a surmonté le défi. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause, la cause de la démocratie.
C'était Joe Biden le mercredi 20 janvier devant le Capitole à Washington DC au moment de prononcer son discours d'investiture. Pourquoi avoir retenu cette personnalité-là, Gilles ?
Alors, pas seulement parce que pour cette dernière émission avant l'été, pour terminer sur une note d'espoir, sur une note positive, pas seulement en raison des premières décisions qui ont été prises depuis maintenant 6 mois par Joe Biden, mais pour deux autres raisons. La première, c'est que je crois que ça marque symboliquement la fin d'un cycle idéologique de 40 ans qui avait été ouvert par l'élection de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, et d'un cycle néolibéral dont il se termine pas brutalement là. Il avait même déjà commencé à prendre du plomb dans l'aile après la crise financière, mais dont l'élection de Joe Biden marque, je crois, quand même une étape. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est le signe de la possibilité de la défaite des populistes, d'un populiste, de pas n'importe lequel qui était Donald Trump, de pas dans n'importe quel pays qui étaient les États-Unis, et qui a éviter, je crois, ce qui aurait été une calamité, qui aurait été sa réélection. Vous savez, on demandait vieux premier ministre britannique conservateur Benjamin Disraeli, c'est quoi la différence entre une catastrophe et une calamité?
Oui.
Et Disraeli, qui avait la dent dure et qui avait un ennemi qui était le leader libéral Gladstone, disait « Si Gladstone tombe dans la Tamise, c'est une catastrophe. Si on le repêche, c'est une calamité. » Eh ben, lorsque un populiste est élu, c'est une catastrophe. S'il est réélu, c'est une calamité parce que le deuxième mandat est, on l'a vu dans d'autres pays, le mandat dans lequel tout devient possible. Et quand on voit les bases sur lesquelles était parti le premier mandat de Donald Trump, je crois que tous les jours, on peut remercier Joe Biden de l'avoir battu.
Vous partagez la Biden-mania, Natacha ?
C'est pas une question de Biden-mania, c'est ce que vient de dire Gilles. Non, mais je te dis en plaisantant, mais
c'est le mot qui s'est imposé.
Enfin, ce qui est en train de se passer, en effet, est la fin d'un cycle, le début d'un autre dont nous ne savons pas encore de quoi il sera fait. Joe Biden est à la fois le début de quelque chose, mais aussi l'incarnation de la perpétuation de certaines choses. On en a déjà parlé ici, la question de ce messianisme des démocrates américains, dont je ne suis pas sûre qu'il faille se réjouir. La question, donc, en fait, ce qui s'ouvre, le cycle qui s'ouvre là est un cycle qui va être essentiel pour les pays européens, puisque il pose la question de savoir si l'Union européenne va réussir à exister face aux États-Unis de Joe Biden, à côté, indépendamment, pas contre, mais indépendamment. Or, il y a des enseignements à tirer, en effet, ce que fait Joe Biden en politique intérieure est tout à fait intéressant sur le plan économique, il y a énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, hein. Personnellement, j'étais beaucoup plus pessimiste sur la possibilité de la part de Joe Biden d'apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant économiquement. De fait, je n'y croyais pas parce que j'étais trop habituée à ce qu'étaient les démocrates américains sur ce plan-là, mea culpa. Il va falloir voir sur la suite, mais en effet, il y a des choses extrêmement intéressantes. En revanche, le risque d'une Biden-mania, ce serait de nous croire des Américains et d'oublier que les intérêts des citoyens des pays européens ne sont pas ceux des citoyens américains et que les États-Unis, même avec un président comme Joe Biden, si sympathique soit-il, si formidable soit-il, ne sont pas des alliés à égalité et ils n'ont aucune intention de nous traiter comme tels.
Joe Biden, social-démocrate ?
Sur ce qui a été fait, on avait discuté à plusieurs reprises avec Natacha. En fait, ce qui est important, c'est le travail que les démocrates, que le parti démocrate américain a fait depuis la défaite de Donald Trump, dont nous avait parlé Célia Belin ici et son livre « Des démocrates en Amérique ». Sur ce qui va être fait, je partage les interrogations de Natacha et d'une certaine manière, c'est moins Joe Biden l'événement que l'élection de Joe Biden et ce qu'elle représente.
Il est temps maintenant de passer à la personnalité de l'année. Pour vous, Natacha, il a 53 ans de moins que Joe Biden. Il s'appelle Guillaume Rozier. Il a inventé des outils qui ont totalement changé la manière de vivre la pandémie. Covid Tracker, VitmaDose par exemple.
Covid Tracker, c'est un site qui permet de suivre l'épidémie, donc qui permet de voir où l'épidémie se développe en France, dans quelle région, dans quel département, dans quelle tranche d'âge. Donc ça permet vraiment de voir comment progresse l'épidémie, est-ce qu'elle progresse vite, est-ce qu'elle progresse pas vite, et où est-ce qu'elle progresse pour essayer d'anticiper les mesures qu'on va prendre.
Pourquoi Guillaume Rozier, jeune ingénieur de 25 ans, Natacha ?
Parce que je trouve qu'il concentre énormément de choses très intéressantes. Dans une année, en effet, où nous avons été confrontés à l'inconnu, à ce à quoi nous ne nous attendions pas, tout à coup, on a ce jeune homme qui prend en charge quelque chose qui aurait dû être pris en charge par l'État. C'est le premier point. C'est-à-dire que on pourrait le traiter du point de vue de la défaillance de l'État. Eh bien, grâce à Guillaume Rozier, on peut le traiter du point de vue de l'initiative individuelle de gens qui mettent des outils gratuitement au service de la collectivité et on ne peut que se réjouir que cela que ça ait pu se passer
ça
comme ça.
Ça tombe bien en période de silence électoral.
Exactement.
De présenter les choses comme ça.
Voilà, et ça permet aussi de réfléchir au poids absolument majeur que les data vont avoir dans l'avenir Et la question de savoir si ces data sont accessibles au plus grand nombre, s'il y a une liberté de les mettre en commun pour faire avancer les connaissances, pour prendre des choix collectivement, me semble un enjeu absolument fondamental. C'est pour ça que je trouvais, il ne s'agit pas de glorifier et d'héroïser une personne, mais à travers ce garçon, de réfléchir à tout ce qui nous attend dans l'avenir.
Guillaume Rosier, en un mot ?
En un mot, c'est la question de l'articulation du public et du privé et l'importance de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire le fait que notamment l'État mette à la disposition de chacun les données publiques. C'est un sujet sur lequel la France avait et a encore sur beaucoup de points du retard, et on voit l'utilité de cette open data. Après, le petit risque, hein, c'est que ce que l'on offre à Guillaume Rosier, ce soit une médaille, l'Ordre National du Mérite, quand au même moment, le patron d'appel lui offrait un contrat.
Tim Cook, PDG d'Apple, effectivement, l'un vaut plus que l'autre.
On verra.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et on va terminer le duel avec le livre de l'année. Et pour vous, Natacha, c'est un livre d'ailleurs qu'on a pu entendre sur Inter.
Il y a aussi ce visage d'ange, beauté satanique, regard d'oracle. Et puis, sans doute, cette vie de douleur et d'aventure. Une vie sans joie, courte, heurtée, un parcours comme une errance. Des amis nombreux, mais des amitiés pas solides. L'amour flambe en torchère. Tout se consume au contact d'Arthur.
Vous avez reconnu la voix de Sylvain Tesson qui avait passé sur Inter un été avec Rimbaud. Pourquoi, Natacha, avoir voulu revenir sur cette série radio qui est devenue un livre très accessible d'ailleurs?
Tout simplement parce que au moment de clore cette saison avec vous, je me suis dit que nous
c'était
avons débattu.
C'était une saison en enfer.
nous avons débattu de tout ce qui agite la société. Nous avons parlé politique, géopolitique, économie, et nous parlons peu parce que ce n'est pas le lieu de cette émission, littérature. Or, si les auditeurs de France Inter, pour certains, ont écouté cette série Un été avec Rimbaud, ils auront compris que ce que nous raconte Sylvain Tesson de Rimbaud, dans ce petit livre qui, en effet, est un outil absolument extraordinaire, un plaisir de chaque instant, c'est à quel point un jeune homme de 17 ans a voulu reconstruire le monde à travers le verbe, à travers les mots. C'est-à-dire ce que Rimbaud, et c'est toute la force de Tesson, c'est de nous expliquer, Rimbaud, ça ne se traduit pas, ne s'explique pas, il ne s'agit pas d'essayer de comprendre les illuminations, personne ne peut comprendre les illuminations. C'est un choc, c'est une puissance de simplement de la langue. Et cette force
et du
langage
raisonné de tous les sens.
Oui, à travers, traduit par la langue. Et rappeler la puissance du langage, de ce que l'être humain peut faire par la force des mots, me semble aujourd'hui absolument nécessaire. C'est la liberté absolue, c'est ça que prouve Rimbaud et c'est ça que Sylvain Tesson raconte à merveille.
Très bon conseil. Hein, Gilles, votre livre de l'année.
Moi, j'ai revisité les invités que nous avons reçus tout au long de cette saison et les livres qu'ils nous ont proposés. Il y a une rencontre, moi, qui m'a marqué dans cette année, qui était celle avec Souleymane Bachir Diagne, dont
bien
j'ai
sûr
trouvé
philosophe
que c'est,
sénégalais.
Voilà, que c'est, à la fois son parcours, sa personnalité, son humanité était formidable. Mais si je voulais retenir un livre, en fait, j'en ai retenu trois pour être un mauvais élève.
Donc c'était, le fagot de ma mémoire.
Oui, c'était celui sur la nation de Pascal Horry, celui sur les lumières de Corinne Pelluchon et celui sur la laïcité de Patrick Veil. Et ce que ces trois livres ont en commun, c'est qu'ils viennent revisiter les grands concepts autour desquels nous réfléchissons et qui viennent les nourrir d'une autre manière, celui sur la nation par une vision extraordinairement comparative avec Pascal Horry, celui sur les lumières avec l'introduction de la question environnementale et la laïcité avec un retour sur l'histoire. Et donc ça fait des bonnes lectures de vacances.
Et ils seront évidemment tous ces livres notés sur le site du Grand Face à Face. On passe tout de suite au débat.